Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 9 octobre, le retour imminent de Sophie Petronin. La dernière otage française a été libérée il y a quelques heures au Mali. L'avion qui la ramène doit se poser dans les toutes prochaines minutes. À Villa Coublay, elle sera accueillie par le président qui doit faire une déclaration dans 20 minutes. Nous vous ferons vivre cette arrivée en direct dans ce journal. Pas de Paris-Roubaix le 25 octobre. La reine des classiques sur les pavés est victime du coronavirus, d'autant que Lille vient d'être classée en zone d'alerte maximale, tout comme Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Le gouvernement élargit son fonds de soutien aux entreprises pendant la crise. Les loueurs de voitures, par exemple, vont pouvoir désormais en bénéficier. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies reçoit le prix Nobel de la paix. L'organisme qui lutte contre la faim dans le monde a nourri près de 100 millions de personnes l'an dernier. 3 ans de prison ferme requis au tribunal correctionnel de Pau contre cet anesthésiste alcoolique qui avait causé la mort d'une jeune femme pendant son accouchement. C'est la peine maximale pour un homicide involontaire. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Je ne vous remercie pas pour le couvercle.
Bon, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de nuages. Sur une large partie nord, c'est dû en fait à cette perturbation qui s'enfonce mais lentement et qu'on va retrouver cet après-midi entre la Vendée, la région centre et la Lorraine. Et puis une fois les pluies passées, on retrouvera quand même quelques éclaircies sur le nord et le nord-ouest. Du sud-ouest à l'Alsace, c'est souvent nuageux, malgré quelques trouées. Et puis c'est du beau temps sur un large quart sud-est. Les températures, on en profite, elles sont encore à peu près dans les normales, de 15 à 19 au nord et de 19 à 23 au sud.
La question du jour sur RTL.fr, notre société est-elle de plus en plus violente? Eh bien, vous êtes 92% à dire oui, il y a 5% de non. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, et nous serons notamment avec Anna Bauer, que vous connaissez sans doute, qui est professeur de criminologie. Il sera là entre 14h et 14h30 pour la discussion et vous pourrez l'interroger. Autre sujet du jour, qui veut encore être élu de la République? Plusieurs dizaines de manifestants ont violemment fait irruption hier soir dans une réunion au conseil municipal de Saint-Denis. Plusieurs élus ont été agressés physiquement, donc si vous êtes élu, appelez-nous, si vous êtes parfois en proie à ce genre de difficultés. Et puis êtes-vous satisfait de l'action du Premier ministre? Jean Castex est-il l'homme de la situation? Sa cote de confiance est au plus bas, 28% selon un sondage et l'AB, elle a perdu 4 points cette cote de confiance.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
L'avion qui ramène donc Sophie Petronin vers la France ne va pas tarder à se poser à la base aérienne de Villa Coublay. L'otage a été libéré il y a quelques heures après 1384 jours de détention entre les mains des djihadistes au Mali. On a assisté à des retrouvailles poignantes avec son fils qu'elle consolait. Elle retrouve cette fois son pays. C'est une femme de 75 ans, solide comme un roc, qu'on a vu apparaître sur les premières images. Je vais très bien, a-t-elle dit. Raphaël Vantard, vous êtes à Villa Coublay pour RTL, où Sophie Petronin va être accueillie par le président de la République, Emmanuel Macron.
Exactement, Sophie Petronin devrait arriver d'ici quelques instants maintenant ici à l'aéroport de Villa Coublay. Le président Emmanuel Macron est bien présent pour l'accueillir. L'avion militaire qui la transporte, elle et son fils Sébastien Chadeau, va se poser après plusieurs heures de vol en provenance du Mali. Ses proches, son neveu, sa famille l'attendent déjà ici sur le tarmac. Ils vont pouvoir, comme son fils cette nuit, serrer dans leurs bras Sophie Petronin. Un moment de retrouvailles émouvant après 4 ans de détention pour cette femme humanitaire de 75 ans. Une personnalité, vous l'avez dit, à la mentalité de roc. C'est ce que montrent ses premières déclarations cette nuit à Bamako, notamment cette phrase: je n'ai pas de colère, à quoi ça servirait la colère? L'avion militaire, le Falcon qui la transporte, est médicalisé au cas où. C'est la procédure lors des libérations d'otages. Sophie Petronin est accompagnée à bord par son fils Sébastien, mais aussi par des médecins et des diplomates. Et comme c'est le cas pour tous les otages qui reviennent en France, Sophie Petronin sera certainement entendue dans les heures qui viennent par les hommes du renseignement français. Elle a déjà eu des examens médicaux à Bamako au Mali et elle va sans doute avoir de nouveau des examens complets, tant son état de santé lors de sa captivité a soulevé ces derniers mois beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Ensuite, Sophie Petronin l'a dit, elle va rester un petit peu avec son fils en Suisse, visiter des proches en France, et elle n'exclut pas, loin de là, de retourner dans quelques mois au Mali de façon sécurisée pour rencontrer les membres de son association humanitaire qui vient en aide aux enfants du Sahel.
Et vous nous rappellerez dès son arrivée, Raphaël, à tout à l'heure. Pour aller plus loin, nous sommes avec Lemine Oulsalem, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel. Bonjour.
Bonjour.
C'est un épilogue heureux. Est-ce le fruit d'une négociation de dernière minute ou est-ce que ça dure depuis des mois?
Alors, il faut dire que la libération de Sophie Petronin intervient, en fait, intervient dans un contexte assez particulier. Au mois de mars dernier, Soumaïla Cissé, qui est une haute personnalité malienne, 3 fois candidat à la présidentielle, a été enlevé en pleine campagne électorale pour les législatives. C'est en ce moment-là que le gouvernement malien est entré en contact avec, a essayé plutôt d'entamer des négociations pour sa libération. Mm-hmm. Alors, ça n'avançait pas, ça bloquait. Et à partir du mois de juillet, quand il y a eu le changement d'équipe...
Quand la junte militaire est arrivée au pouvoir au Mali.
Absolument, absolument. Et surtout la désignation d'un négociateur professionnel qui est très connu, c'est Ahmad Agbibi, qui est à l'origine d'ailleurs de la libération de François Zarib et des travailleurs malgaches et togolais enlevés en 2010 au Niger, des travailleurs d'Areva.
Les salariés d'Areva, oui.
Absolument. Donc c'est l'intervention d'Ahmad Agbibi à partir du mois de juillet qui a permis aux Maliens de tenter un coup, c'est-à-dire une fois le principe de la libération de Soumaïla Cissé acquis, les Maliens ont tenté d'introduire l'idée d'une libération de Sophie Petronin. Mm. Au début, les djihadistes avaient refusé. Ahmad Agbibi est revenu à la charge et trois ou quatre semaines, les djihadistes ont fini par accepter la libération de Sophie Petronin, mais tout cela n'était pas gratuit, bien évidemment.
Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, puisque le fils de Sophie Petronin est parti au Mali en début de semaine? La libération de sa mère semblait imminente à ce moment-là.
Justement, la libération, le principe a été acquis depuis très longtemps, c'est-à-dire juillet, libération de Soumaïla, c'était déjà conclu. Il y a trois ou quatre semaines, Petronin l'idée de libérer Petronin a été admise par les djihadistes, sauf qu'il fallait organiser tout cela, c'est-à-dire les modalités de direction d'accord posaient un petit problème technique. Alors, en ce moment-là, il s'est avéré que parmi, sur la tête des listes des détenus, des dizaines de détenus djihadistes ou présumés tels qui étaient détenus dans les prisons maliennes, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans des attentats où, par exemple, certains ressortissants étrangers étaient morts, notamment un Américain qui a été tué à l'attentat de l'hôtel, contre l'hôtel Le Splendide de Ouagadougou.
Oui.
Et donc, l'organisateur des attentats de Grand Bassin près d'Abidjan et du Splendide à Ouagadougou faisait partie des premières personnes figurant sur la liste réclamée par les djihadistes.
Mais donc, il y a des personnes importantes, pardon, parmi les 200 djihadistes à peu près qui ont été libérés, il y a des personnes, vous nous dites, qui ont mené des attentats, qui sont des personnes,
personnes
importantes.
Même si l'écrasante majorité des personnes libérées, il semblerait que soit de petites frappes, sinon...
D'accord, il y a des petites mains, mais il y a aussi des gens plus importants. Est-ce que
comme ce fameux Mini Ousbaba Oudichère, qui est présumé responsable notamment de l'attentat du Splendide où un citoyen américain a été mort.
Oui.
Et c'est l'intervention des États-Unis empêchant sa libération qui a retardé la libération de Sophie Petronin et de Soumaïla Cissé et des deux Italiens finalement qui ont été libérés.
Excusez-moi.
La libération était prévue lundi dernier. Hein.
Est-ce que ça veut dire que demain, dans les jours, dans les mois qui viennent, les soldats de l'opération Barkhane, les soldats français, vont devoir de nouveau affronter ces gens-là?
Probablement, mais pas tous. Il faut dire que l'écrasant, selon mes sources, en tout cas selon les gens très crédibles dans le nord du Mali et même à Bamako, une très grande partie des personnes libérées n'avaient que de liens très vagues et pas très avérés avec les djihadistes. Le cousin de quelqu'un ou un petit commerçant ou un transporteur ayant transporté parmi d'autres voyageurs, un ou deux djihadistes, etc. Mmh. Il faut dire aussi que cela a arrangé aussi bien la justice malienne, qui n'avait pas très souvent de base légale.
Je voudrais juste une dernière chose, et je vous demande une réponse rapide, pardon, Lemi Doul Salem. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu le versement d'une rançon?
Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de libération d'otages sans rançon. Ça, c'est une évidence. Hein. Pour tout le monde, je pense qu'on est il faut vraiment être naïf pour croire qu'on va libérer un otage, surtout un otage occidental, ou quelqu'un qui a failli être président du Mali juste contre quelques dizaines de détenus. Non seulement il y a cette idée, il paraîtrait donc qu'il y a bien eu versement de rançon, notamment 10 millions d'euros de rançon, ça veut dire 6 milliards 650 millions de francs CFA.
Oui.
La question à poser, c'est plutôt, mais qui est-ce qui a payé? Alors, justement, il y a un petit détail qui a échappé à beaucoup de gens, c'est la libération des deux Italiens, dont un prêtre notamment enlevé au Niger en 2018, si je ne me trompe pas. Alors,
rapidement, pardonnez-moi, mais vraiment très très vite.
c'est le Vatican qui aurait payé ces 10 millions de francs, d'euros.
D'accord, d'accord. C'est le Vatican qui aurait donc payé, d'après vos informations, parce qu'il y avait aussi deux otages italiens. Merci, c'était passionnant, pardon, mais le temps presse et on attend toujours l'arrivée de Sophie Petronin. Son avion ne s'est pas encore posé à Villacoublay. Merci beaucoup, Léminoud Salem. Le prix Nobel de la paix, on s'attendait à une récompense autour de la liberté d'informer. Finalement, le comité norvégien consacre le programme alimentaire mondial des Nations Unies qui lutte à la fois contre la faim dans le monde et pour la paix, Pierre-Julien.
Oui, en effet, le programme alimentaire mondial a été récompensé pour tous ses efforts dans les endroits les plus reculés de la planète, comme dans les banlieues miséreuses de certaines mégalopoles. Mais l'organisme onusien a été remarqué surtout pour ses interventions en zone de conflit, comme au Darfour, dans l'ouest du Soudan, où 4 millions de personnes sont dans le besoin total de nourriture, d'eau potable. On peut ajouter aussi la Syrie, Daesh, les rebelles, régime en place, ont empêché le ravitaillement alimentaire de l'adversaire, même si la plus touchée est toujours la population civile. C'est d'ailleurs l'autre volet qui a retenu l'attention du comité Nobel. Le PAM dénonce ceux qui utilisent la famine comme arme de guerre. Ainsi, l'embargo saoudien imposé au Yémen, auquel s'ajoutent les multiples bombardements des silos à grains et des marchés locaux.
Merci Pierre-Julien, on fait une pause et dans un instant, pas de Paris-Roubaix cette année.
RTL Midi. RTL Midi avec Christelle Rebière.
Et on repart tout de suite à la base aérienne de Villacoublay retrouver Raphaël Vantard. Raphaël, l'avion qui ramène Sophie Petronin vient de se poser il y a quelques secondes.
Exactement, Sophie Petronin qui va pouvoir fouler le sol français dans quelques instants. Son avion est en train d'être acheminé vers le pavillon d'honneur de cet aéroport militaire de Villacoublay. Vous entendez certainement les grosses turbines derrière. Cet avion est en train de s'avancer doucement sur ce tarmac. Emmanuel Macron et les proches vont s'avancer d'ici quelques instants, mais pour l'instant, c'est les procédures de sécuriser. Le Falcon est en train de faire le dernier virage avant d'arriver. C'est un moment évidemment pour tous les proches très très émouvant puisqu'ils vont pouvoir serrer dans leurs bras dans quelques instants la dernière otage française qui va pouvoir fouler le sol français d'ici quelques instants. Le président Emmanuel Macron et les proches y vont s'approcher dans les tout prochains instants.
Et vous nous rappelez évidemment dès que la porte va s'ouvrir, Raphaël, à tout de suite. Le coronavirus aura eu raison de la reine des classiques cyclistes. L'édition 2020 de Paris-Roubaix est annulée. La course déjà reportée devait avoir lieu le 25 octobre, mais Lille vient de passer en zone d'alerte maximale. Christian Prudhomme, le président d'ASO qui organise l'épreuve, vient de réagir.
C'est bien sûr une vraie déception, c'est même de la tristesse. Paris-Roubaix, c'est la plus belle des classiques, c'est la reine des classiques. Mais la demande du préfet du Nord, du préfet des Hauts-de-France, je la comprends. Parce que bien évidemment, le plus important, c'est la santé, c'est la situation sanitaire du pays. Mais il n'empêche que oui, Paris-Roubaix a été créé en 1896. Seules les deux guerres mondiales ont empêché son déroulement. Donc c'est quelque chose de triste, même si, encore une fois, l'avis du préfet du Nord est parfaitement autorisé. L'inquiétude des pouvoirs publics était surtout focalisée sur les secteurs pavés, plus que sur le départ ou l'arrivée. Il y avait un Paris-Roubaix femme pour la première fois prévu, avec un départ de Denain pour aller jusqu'au vélodrome de Roubaix. Et naturellement, que les élus de Denain en l'occurrence, de Compiègne, de Roubaix et la région Hauts-de-France avec son président Xavier Bertrand sont déçus. Ça aurait été une première pour les filles sur un terrain tout à fait particulier, un terrain de légende là aussi. Alors, on donne rendez-vous maintenant au 11 avril en souhaitant que d'ici là, évidemment, dans le pays, au-delà du sport, au-delà du cyclisme, tout se soit amélioré.
Christian Prudhomme avec Nicolas Georgerot. Effectivement, Lille comme Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passent en alerte maximale. Les bars fermeront demain et un protocole plus strict s'appliquera là-bas aussi dans les restaurants. Mais pour endiguer la montée de l'épidémie, il faut tester de manière plus rapide. Les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat en 20 minutes. La Haute Autorité de Santé vient de donner des conseils d'utilisation. Odile Pouget, on compte sur vous pour le mode d'emploi.
Oui, alors premier cas de figure, vous avez des symptômes, vous avez moins de 65 ans, vous n'avez pas de facteur de risque. À ce moment-là, le test antigénique seul suffit. Il n'y a pas besoin de confirmation par un test PCR, le test de référence qui lui demande au moins 48 heures pour les résultats. Un test antigénique que l'on peut faire entre le premier et le quatrième jour, suivant l'apparition des symptômes. L'idéal étant de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir s'isoler et ne pas contaminer les autres. De toute façon, après ce délai de 4 jours, ses performances diminuent. Deuxième cas de figure, vous êtes une personne âgée, vous êtes à risque de développer une forme grave, eh bien si ce test antigénique s'avère négatif, il est indispensable de s'assurer qu'on ne passe pas à côté de l'infection et il faudra une confirmation. Avantage de ces tests, hormis leur rapidité, ils peuvent être réalisés hors laboratoire, chez un médecin généraliste par exemple. On les attend sur le marché d'ici fin octobre, le temps qu'ils soient homologués et que l'assurance maladie se prononce sur leur remboursement. Et puis un test que la Haute Autorité de Santé recommande aussi pour les opérations de dépistage ciblées, par exemple pour des débusquer des clusters dans les universités et les EHPAD.
Merci Odile. Et on repart tout de suite à Villacoublay. L'avion s'est donc posé il y a quelques secondes, Raphaël Vantard. La porte vient de s'ouvrir, Emmanuel Macron s'approche.
Exactement, Emmanuel Macron qui s'approche avec les proches hein, de Sophie Pétronin. Ils vont dans quelques instants l'accueillir. Pour le moment, voilà, ce sont les militaires qui se sont mis au pied de l'escalier et Emmanuel Macron qui s'avance seul et Sophie Pétronin qui à l'instant voilà descend les quelques marches. Elle remercie d'abord les deux avions de ligne. Elle remercie tout le personnel militaire français à bord de cet avion médicalisé, un Falcon hein, qu'elle a emprunté depuis le Mali pour venir ici avec son fils Sébastien Chado qui est juste derrière. Derrière là, voilà Sophie Pétronin qui descend doucement le Falcon aidée par deux militaires et elle va voilà donner l'accolade au président Macron avec le Covid. Voilà, les gestes sont un petit peu moins effervescents qu'avant, mais voilà, il y a quelques échanges là actuellement entre Emmanuel Macron et Sophie Pétronin sous les yeux de son fils hein, Sébastien Chado qui se tient juste derrière à la porte de ce Falcon. Voilà Sophie Pétronin qui échange quelques mots avec Emmanuel Macron avec le masque évidemment sur le visage et Sébastien Chado, le fils hein, de Sophie Pétronin qui s'avance également pour un petit peu discuter avec Emmanuel Macron, même s'il se tient un petit peu en retrait. Là, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui s'entretient à son tour avec Sophie Pétronin. Et Sophie Pétronin qui va pouvoir maintenant embrasser ses proches, sa famille, et notamment un petit garçon qu'elle serre là actuellement dans ses bras. Image saisissante et émouvante, et évidemment, de ses retrouvailles et de Sophie Pétronin qui foule le sol français 4 ans après... 4 ans de détention et là c'est le fils hein, c'est le fils qui fond dans les bras de ses proches Sébastien Chado, voilà qui des moments de retrouvailles entre toute la famille de Sophie Pétronin actuellement ici.
Et on avait déjà assisté à un moment extrêmement émouvant quand il avait retrouvé sa mère cette nuit, Raphaël Vantard, au Mali.
Il y a beaucoup de larmes.
Hein. C'était vraiment très beau.
Il y a beaucoup de larmes, c'est très émouvant. Ouais. C'est très émouvant. Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian qui se tiennent un petit peu en retrait. Et là, c'est vraiment une embrassade, un grand... Voilà, ils font corps, hein, les proches font corps vraiment avec Sophie Pétronin pour l'accompagner dans ce moment qui n'est pas simple. C'est celui du retour à quelque part une vraie vie après 4 ans de tensions. Et voilà, il y a énormément d'émotions pour tous ces proches qui ont attendu ces 4 années-là et qui savourent ces retrouvailles avec cet humanitaire.
Merci. On vous retrouvera dans quelques instants pour la déclaration, le discours d'Emmanuel Macron, Raphaël Vantard. On fait une petite pause.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Venons-en à ce qui s'est passé à Herblay dans le Val d'Oise. L'un des deux policiers grièvement blessé a toujours son pronostic vital engagé. L'autre, dont l'état s'est amélioré, a pu être entendu par les enquêteurs. Et on apprend à l'instant, Thomas Proutot, que l'un des trois suspects s'est rendu à la police ce matin.
Absolument. Un jeune homme de 17 ans, prénommé Liesk, s'est rendu de lui-même, vous le disiez, ce matin à 10h à la police judiciaire de Versailles. Le service qui coordonne l'enquête sur l'agression ultra-violente des deux policiers. Ce suspect, selon nos informations, était en fait recherché depuis hier, car il se trouvait à proximité des lieux du tir mercredi soir. C'est lui qui aurait d'abord prévenu les secours avant de disparaître, mais son téléphone a pu être identifié par les enquêteurs. Le jeune homme se savait donc dans le viseur. A-t-il participé à l'agression ou se présente-t-il comme un simple témoin aux enquêteurs? C'est cela dont on n'est pas encore tout à fait sûr. En tout cas, c'est ce que la garde à vue du jeune homme qui débute va s'attacher à déterminer, tandis que les 300 enquêteurs mobilisés continuent de rechercher les autres suspects.
3 ans de prison ferme et l'interdiction définitive d'exercer ont été requis ce matin au tribunal correctionnel de Pau contre Helga Wauters. Cet anesthésiste belge de 51 ans avait causé la mort d'une patiente en pratiquant une césarienne alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. L'accusé s'est défendu une dernière fois, Philippe de Maria, maladroitement.
Oui, à la toute fin de ce procès, Helga Wauters, à la barre, tombe son masque de protection, mais ses paroles sonnent creux après de longs silences. Elle présente enfin ses condoléances 6 ans après le drame, tout en soulignant que ça a été très dur pour elle aussi. La famille de Xynthia reste stoïque. Ses membres sont là notamment pour Isaac, le fils de la victime, né de cet accouchement qui a tourné au cauchemar. Yannick, son père, s'exprime pour la première fois.
Quand on fête l'anniversaire de mon fils et le mien qui suit juste derrière, c'est difficile pour moi d'avoir des moments très très joyeux. Je dois mettre un visage de façade pour que lui se sente bien et soit heureux, quoi. J'essaie de lui donner le meilleur équilibre possible. J'ai le rôle de papa-maman. Je fais mon travail comme tout parent, quoi. Il sait que sa maman est décédée à des suites d'un accident. C'est les mots que je lui ai toujours dit. Et j'ai pas envie qu'il se sente lui coupable. Déjà, moi j'ai eu ces sensations par moment. Je sais que j'ai réussi quelque chose quand je le vois sourire le matin et qu'il est de bonne humeur et il est là et papa ceci et papa cela, c'est du bonheur quand même.
Et la décision sera rendue le 12 novembre prochain dans l'affaire Helga Wauters.
Philippe Demarie en direct de Pau pour RTL. Sophie Pétronin est libre. Son avion est arrivé il y a quelques minutes à Villacoublay, évidemment. C'est la principale information de cette mi-journée. Elle a été accueillie par Emmanuel Macron. Raphaël Vantard, vous êtes sur place. On a assisté à une longue, très longue accolade entre Sophie Pétronin et plusieurs de ses proches. C'était assez émouvant.
Ouais, magnifique étreinte hein, devant le Falcon. Effectivement, ça a duré de longues minutes. Il y avait ce besoin hein, pour les proches de serrer dans leurs bras Sophie Pétronin après 4 années de détention. Et c'est vrai que cette image a marqué, y compris le président de la République Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui se sont reculés et qui ont laissé ce moment de retrouvailles se dérouler ici sur ce tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Ensuite, Sophie Pétronin, ses proches et le président de la République sont allés profiter d'un moment un peu plus intime à l'abri des caméras dans le pavillon d'honneur là actuellement de l'aéroport Villacoublay, l'aéroport militaire. Ils sont en train actuellement de profiter de ces retrouvailles dans cet aéroport et ensuite ils reviendront sans doute tout à l'heure dans quelques instants faire une déclaration ici. Un micro a été installé pour une éventuelle prise de parole du président de la République, ça c'est sûr, mais peut-être aussi de la dernière otage française qui vient donc d'être libérée.
Et on suivra cette ou ces déclarations avec vous, bien sûr. Merci Raphaël. Un mot de météo, Peggy Broche, pour le soleil, direction le sud-est aujourd'hui.
Exactement, Christelle, entre la Corse, la Méditerranée, la région Rhône-Alpes et même en remontant vers la Franche-Comté. Dans le sud-ouest, entre le sud-ouest et l'Alsace, là c'est plus nuageux. Et plus au nord, il y a cette perturbation qui s'enfonce lentement dans le pays. On va la retrouver cet après-midi entre la Vendée et la Lorraine. Et puis une fois les pluies passées sur le nord-nord-ouest, eh bien on retrouvera quelques éclaircies. Tout ça sous des températures qui sont encore quasiment proches des normales. On en profite parce que ça va baisser ce week-end. Aïe. De 15 à Brest à 23 à Toulouse et 17 à Paris.
On remet les écharpes ce week-end.
Exactement.
Merci Peggy. À suivre sur RTL, le rappel des titres. Et bien sûr, comme d'habitude, le 32-10, Pascal Praud, vous avez la parole. Rien ne change. À tout de suite.
RTL.
Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous allons être avec François, puisque vous l'avez vécu en direct avec Raphaël Vantard. Sophie Pétronin est libre et elle est sur le sol français. Bonjour François.
Bonjour. Alors effectivement, très 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 heureux et très content pour Sophie Pétronin et toute sa famille, mais également très intéressé par les conditions de sa libération. Quoi. Ça pose question.
Évidemment, et on a écouté tout à l'heure chez Christelle un journaliste qui expliquait que les djihadistes qui sont libérés seront peut-être devant les soldats français. C'est là qu'on va les retrouver, ce qui nous fait peur forcément. Le rappel des titres avec Christelle précisément.
Mais oui. On va retourner dans quelques secondes à Villacoublay, justement sur la base aérienne. On a un petit problème de liaison avec Raphaël Vantard. Le coronavirus aura eu raison de la reine des classiques cyclistes. L'édition 2020 de Paris-Roubaix est annulée. La course déjà reportée devait avoir lieu le 25 octobre. Mais Lille vient de passer en zone d'alerte maximale. En rugby, le match Bordeaux-Bègles-Clermont prévu dimanche est reporté. Et on retourne à Villacoublay. Cette fois, Raphaël Vantard est en ligne. Donc Sophie Pétronin est rentrée il y a à peu près 25 minutes. Hein. Son avion s'est posé il y a 25 minutes. Emmanuel Macron est venu l'accueillir. Il devrait faire une déclaration dans les prochaines minutes.
Effectivement, ça bouge un petit peu ici à Villacoublay. Emmanuel Macron et Sophie et l'otage Sophie Pétronin sont actuellement toujours dans le salon d'honneur de cet aéroport militaire, en train un petit peu de partager ces moments de retrouvailles, de partager aussi tous ces moments de détention avec le président de la République. Ensuite, le président de la République va très certainement dans quelques instants se présenter ici sur le tarmac pour faire une déclaration sur cette libération de Sophie Pétronin. Il sera peut-être accompagné par l'ex-otage française. Pour l'instant, ça on ne le sait pas, mais on a trouvé en tout cas Sophie Pétronin tout à l'heure tout à fait à l'aise. Elle a fait d'ailleurs un pas hein, en direction vers le micro avant de se raviser et d'aller vers ce pavillon d'honneur, sûrement pour partager un peu plus de retrouvailles avec ses proches. Mais il n'est pas impossible que dans quelques instants, elle se présente avec Emmanuel Macron au micro pour une déclaration.
À tout à l'heure. Le prix Nobel de la paix décerné cette année au programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui lutte à la fois contre la faim dans le monde et pour la paix. À Roland-Garros, place aux demi-finales hommes cet après-midi avec un joke Djokovic diminuer contre le bouillonnant grec Tsitsipas. Mais d'abord, Nadal, le roi de la terre battue parisienne face à l'Argentin Schwartzmann, qui peut créer la surprise. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour, oui, ce sera à 15h. Diego Schwartzmann a beau avoir perdu 9 fois sur 10 contre Nadal, c'est lui qui a remporté leur dernier duel, et pas n'importe lequel, hein, puisque c'était il y a seulement 3 semaines sur la terre battue de Rome. Une victoire qui va forcément donner confiance au petit Argentin d'1m68. D'ailleurs, Nadal se méfie, d'autant plus que les conditions automnales de Roland-Garros ne l'avantagent pas. L'humidité ralentit le cours et les nouvelles balles sont, de l'avis général des joueurs, et notamment de l'Espagnol, plus lourdes, plus difficiles à travailler. En tous les cas, pour lui, elles giclent le moins de sa raquette et donc rebondissent beaucoup plus bas, ce qui peut permettre à Schwartzmann de moins reculer, de pouvoir frapper plus tôt et donc d'imposer son rythme. Mais attention, Nadal est tout de même chez lui ici, il faut le rappeler, sur ce central. C'est sa 13e demi-finale. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en a perdu aucune. Ces 3 dernières années, il a même collé 3 sets à Tim Del Potro Federer, excusez du peu, pour accéder en finale. Petite précision aussi, à chaque fois que Nadal est arrivé dans le dernier carré, eh bien il a gagné le tournoi.
Bon, ça commence à 15h.
Exactement. Et la deuxième demi-finale, pas avant 17h.
À tout à l'heure, Isabelle.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous étions donc avec François il y a une seconde, qui se réjouissait, comme nous tous d'ailleurs, de la libération de Sophie Pétronin. Emmanuel Macron est d'ailleurs parti l'accueillir.